Bonjour à toutes et à tous. Après deux semaines en dehors de ces murs, nous voici de nouveau réunis dans notre salle habituelle. Et nous reprenons aussi ce matin notre série de prédications qui précède Noël avec les sept « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Précédemment, pour celles et ceux qui étaient présents, Jésus a dit « Je suis le pain de la vie » au chapitre 6. Et puis, il a également dit « Je suis la lumière du monde » au chapitre 8. Et aujourd'hui, nous verrons deux autres déclarations, un peu déjà teasées par le début depuis le début de ce culte, et qui se trouvent au chapitre 10. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture du texte. Jean chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Et lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Prions ensemble. À l'écoute de ta parole, nous sommes encore émerveillés par ce que Jésus dit précisément. Nous sommes émerveillés de savoir que tu as pourvu pour nous à un bon berger. Oui, tu nous accordes ce bon berger en la personne de Jésus. Merci, Père, d'être si bon envers nous. Et merci de nous permettre aussi, à cet instant, de pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons être à l'écoute de ta parole. Conduis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dans quelques mois, nous aurons des élections municipales. Et sans doute que lorsqu'il s'agit de participer à ces élections, on va se poser la question, mais pourquoi choisir un candidat plutôt qu'un autre? Alors sans doute que ce qu'on va regarder, ce sont les idées de tel ou tel candidat, son programme, ses valeurs, même sa personnalité. Parce qu'il se trouve qu'il sera le futur maire de notre ville, et donc on veut aussi regarder peut-être sa personnalité. Dans notre texte, il ne s'agit pas d'un discours politique, Mais il se trouve que Jésus se présente comme le meilleur et le seul candidat dans le rôle de berger. Et si c'est lui le meilleur candidat pour être berger, est-ce que nous allons lui faire confiance ? Notre texte se trouve entre deux moments où les adversaires de Jésus se posent des questions sur son identité. Juste avant, au chapitre 9, Jésus vient de guérir un homme qui était aveugle de naissance. Et ce dernier est interrogé par les pharisiens qui veulent savoir comment ça s'est passé. Et brutalement, ces pharisiens lui disent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, en désignant Jésus, nous ne savons pas d'où il est. » Et puis après notre texte, nous voyons au chapitre 10, alors que Jésus se trouve dans le temple, les Juifs l'entourent pour lui demander « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Ce à quoi Jésus répond « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Notre texte, dans Jean 10, versets 1 à 18, répond à cette question sur l'identité de Jésus. Et chaque « je suis » que nous trouvons dans l'évangile de Jean précise davantage l'identité de Jésus. Est-il vraiment celui que les prophètes ont autrefois annoncé ? Pourquoi suivre Jésus plutôt qu'un autre ? Pourquoi faire confiance à Jésus plutôt qu'à un autre ? Et ces questions sont toujours d'actualité. Et peut-être que certains, ici, encore ce matin, se les posent également. Pourquoi Jésus en particulier plutôt qu'un autre ? Devons-nous vraiment suivre Jésus et lui accorder toute notre confiance ? Est-ce que c'est vraiment le meilleur candidat pour être berger ? Je vous propose de pouvoir nous laisser convaincre par Jésus lui-même dans sa manière de se présenter à nous. Et d'abord, eh bien, il se présente comme étant le berger des brebis, et plus précisément, j'aurais dû rectifier ça, le berger de ses brebis. C'est devant les pharisiens que Jésus raconte cette parabole que nous avons lue au début du chapitre 10. Et Jésus a un message à faire passer. Mais nous lisons qu'au verset 6, eh bien, ceux qui l'entendent, et probablement les pharisiens, ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors on va essayer de décortiquer cela. De quoi s'agit-il ? Jésus nous embarque dans l'univers pastoral de l'époque. Quand je dis pastoral, c'est le monde des bergers. Et vous voyez les éléments du décor dans cette parabole. Il y a un enclos avec une porte. Il y a le vrai berger qui passe par la porte, là où le voleur cherche une autre entrée. Le vrai berger, lui, il est reconnu par le gardien et par les brebis. Les brebis reconnaissent sa voix, effectivement, et on le voit à deux reprises ici, au verset 3. Les brebis écoutent sa voix, et c'est pour ça qu'ils se mettent à le suivre. Et puis, ils connaissent sa voix. Et en effet, un des instruments de travail du berger, c'est sa voix. Et les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Qu'est-ce que nous apprenons encore sur ce berger ? Eh bien, nous apprenons qu'il connaît les brebis par leur nom. Autrement dit, il sait quelles sont les brebis qui lui appartiennent. Et un commentateur, Don Carson, souligne que s'il appelle les brebis qui lui appartiennent, comme vous le voyez au verset 3, cela suppose qu'il y avait d'autres brebis dans l'enclos qui n'étaient pas à lui. Donc il fait sortir uniquement les brebis qui sont à lui. Il vient chercher uniquement celles qui sont à lui et il les conduit à l'extérieur de l'enclos. Et il paraît qu'au Proche-Orient, le berger marche devant son troupeau. Là où en Occident, le berger se trouve derrière et éventuellement avec des chiens pour pouvoir conduire le troupeau. Donc, dans le Proche-Orient, il est normal de voir un berger qui est en train de marcher devant son troupeau et le troupeau le suit. Et l'image est intéressante parce que le berger marche devant et les brebis marchent à sa suite. Et cela correspond bien, en fait, à l'appel de Jésus. Quand Jésus dit, lorsqu'il rencontre quelqu'un, « Suis-moi ». Cet appel, cette voix se distingue de celle de l'étranger. Et les brebis qui sont à Jésus connaissent la voix de leur berger et ne veulent pas suivre une autre voie. Jésus a un message à faire passer. Et dans cette parabole, il est question de lui. C'est lui, comme il le dira après, qui est le berger des brebis. Et si vous avez toujours le contexte en tête, en fait, qui est représenté ici par le voleur ou l'étranger ? Je vous écoute. Qui est représenté par le voleur ou l'étranger dans cette parabole ? Qui est visé ? D'après le contexte, ce sont les pharisiens, j'ai entendu. Oui, tout à fait. Ce sont les chefs religieux, les pharisiens de l'époque, qui pensent voir alors qu'ils sont aveugles au sujet de Jésus. Non seulement ils ne croient pas en lui, mais ils menacent aussi ceux qui veulent croire en lui. Voilà le voleur qui vient pour détruire. Ils s'en prennent aux brebis qui ont bien reconnu leur berger en la personne de Jésus. Par exemple, précédemment, au chapitre 9, les parents de l'homme qui a été guéri de sa cécité, les parents n'osent pas répondre directement aux pharisiens parce qu'on avait menacé les gens de les exclure de la synagogue s'ils croyaient en Jésus. Donc vous voyez, le voleur va jusqu'à même priver les brebis de reconnaître leur berger. Jésus dénonce par cette parabole le comportement coupable des pharisiens, de ceux qui sont censés être les bergers du peuple, ceux qui sont censés prendre soin du peuple d'Israël, mais n'ont pas été à la hauteur. Et ça vous rappelle un texte que nous avons lu un peu plus tôt, les mauvais bergers. Ce ne sont que des voleurs qui ne pensent qu'à eux. Et à plusieurs reprises, quand on connaît les évangiles, on se rend compte que Jésus s'en prend à eux, et notamment à leur attitude égoïste, cupide. Ils ne pensent qu'à eux. En fait, ils n'ont pas le souci du peuple. Contrairement à eux, Jésus est le berger qui s'occupe de ses brebis. Et j'aimerais maintenant insister sur le choix de Jésus de se présenter comme étant le berger. Pourquoi cette image ? Pourquoi dit-il que c'est lui le berger ? Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous savez que nous retrouvons cette métaphore dans les autres évangiles. Très souvent, dans les paraboles que Jésus raconte, il parle d'un berger qui va chercher des brebis. Mais aussi dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons aussi vu un peu plus tôt. Et dans l'Ancien Testament, tantôt l'image est appliquée à l'Éternel, et tantôt elle est appliquée à son serviteur David. Je vous donne quelques exemples. Reprenons le psaume 23 au verset 1. « L'Éternel est mon berger, c'est une image, je ne manquerai de rien. » Le psaume 80 aussi le dit au verset 2. « Prête l'oreille en s'adressant à Dieu, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, interviens dans ta splendeur, toi qui sièges entre les chérubins. » Berger d'Israël, le berger d'Israël, c'est l'Éternel. Ésaïe, chapitre 40, verset 11, toujours avec cette même image, « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. » Il conduira les brebis qui allaitent. C'est une belle image. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Et puis, je mentionne également Ézéchiel au chapitre 37, où nous lisons au verset 23 et 24, « Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David, donc cette fois-ci, on parle du serviteur David à venir, hein, pas le serviteur David qui a régné sur Israël, mais celui à venir sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Mais le texte qui se rapproche le plus de ce que Jésus est en train de dire en Jean 10 se trouve en fait au chapitre 34 que nous avons lu. Et comme nous avons déjà lu une bonne portion, je ne vais pas tout reprendre, mais simplement lire encore ces quelques versets. Après s'en être pris aux mauvais bergers de l'époque d'Ézéchiel, en disant qu'ils ont mal fait leur travail, ils n'ont pas pris soin du troupeau, eh bien, l'Éternel dit lui-même, verset 11, « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. » Il y a ici une annonce déjà du retour de l'exil. au peuple qui, désobéissant, a dû être exilé et qui va revenir sur ces terres. Dieu le promet, il va s'en charger. Il continue, « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et j'assisterai celle qui est affaiblie. » Et encore les versets 23 et 24, « Je vais mettre à leur tête un seul berger. Et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. » C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Ces versets que je viens de lire d'Ézéchiel 34 trouvent leur accomplissement en la personne de Jésus. Jésus est le berger que le peuple d'Israël attendait. Il accomplit à la fois la parole qui dit que l'Éternel sera le berger de son peuple et celle qui dit que son serviteur David sera le berger de son peuple. En Jésus se trouvent récapitulées ces deux annonces parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Jésus est le berger annoncé par les prophètes d'autrefois. Et en lisant Ézéchiel 34 et Jean 10, cela ne fait aucun doute. Jésus est en train de réaliser ce qui a été annoncé. Jésus est vraiment celui qui devait venir, autrement dit le Messie choisi par Dieu. Et pour les contemporains de Jean, eh bien, la venue de Jésus répondait à l'espérance d'Israël. Et nous, prenons-nous comme une simple coïncidence que Jésus se présente comme le berger annoncé par le prophète Ézéchiel ? Ou est-il vraiment celui qui accomplit cette promesse de Dieu ? Parmi tout ce que Jésus a dit, l'apôtre Jean choisit ce discours pour confirmer qu'il est bien le berger promis. La preuve est que des brebis entendent effectivement sa voix et le suivent. C'est vrai à l'époque de Jean, c'est aussi vrai pour nous 2000 ans plus tard. Et ce matin même, tu entends aussi peut-être sa voix. T'appeler personnellement. Jésus va encore parler de lui à partir du verset 7 et toujours en utilisant des images. Et cette fois-ci, eh bien, il se présente comme étant la porte des brebis. Et c'est vrai que Jésus a quand même l'art de nous prendre à contre-pied. Parce que dans la parabole qu'il vient de raconter, qui s'est vraiment intéressé à la porte ? On s'est plus attardé sur le berger, mais qui s'est intéressé à la porte ? Et pourtant, de manière solennelle, voici ce que Jésus dit au verset 7, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Jésus n'affirme pas tout de suite qu'il est le berger. Il ne décrypte pas tout de suite cette parabole. Il se présente comme la porte d'abord, la porte par laquelle il faut passer. Il se distingue une fois de plus des voleurs que les brebis, de toute façon, n'écoutent pas. Il est la porte qui conduit au salut. Il est la porte qui conduit à la vie. Et par cette métaphore, eh bien, Jésus est en train de montrer qu'il faut passer par lui. On passe bien par une porte. Il faut passer par lui pour être sauvé. Verset 9. Tout comme quelques chapitres après, il dira qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Et toutes ces déclarations, en fait, sont comme une invitation à le suivre, une invitation à venir à lui, à passer par lui. Il est la porte. C'est lui qui nous conduit véritablement au salut. C'est lui qui nous sauve de la condamnation. Et toutes les routes et toutes les autres portes ne donnent pas accès à la vie éternelle. Seule cette déclaration que Jésus dit. Je suis la porte. Et en disant cela, quand il dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé », Jésus est en train de fermer toutes les autres portes. Il est la seule porte par laquelle il faut passer. Et en se présentant comme la porte, Jésus promet aussi que ses disciples, ses brebis, trouveront ce qui leur est nécessaire. tout comme l'exprime David dans le psaume 23, « Celui ou celle qui suit Jésus ne manquera de rien. » Jésus nous invite à franchir le pas. Il nous invite à venir à lui. Il nous invite à passer par lui. Et Jésus te dit qu'il est la porte qui mène à la vie. Et c'est vrai que pour accepter une telle invitation, il faut d'abord en reconnaître le besoin. Il faut d'abord se rendre compte qu'on est perdu. Et que si nous continuons notre vie telle qu'elle est, nous nous enfonçons toujours plus vers la mort, toujours plus vers la séparation éternelle avec Dieu. Parce que c'est tout ce que mérite un pécheur que Dieu ne pardonne pas. Donc pour pouvoir répondre à cette invitation de Jésus, il faut déjà en reconnaître le besoin. Se savoir perdu. Et ce matin, Jésus te lance cette invitation, cet appel à venir à lui. Il te demande ta confiance. Par contre, méfions-nous des voleurs. Le verset 10 en parle, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, très certainement, n'a pas de bonnes intentions, aucunement. Le voleur n'a que faire du bien du troupeau. Et effectivement, méfions-nous des voleurs, de ceux qui veulent être nos sauveurs. De nos jours, beaucoup sont prêts aussi à dire « si vous passez par moi, vous serez sauvés ». Fuyez. Fuyez quelqu'un qui vous dit cela et qui n'est pas Jésus. Fuyez les séducteurs, les faux bergers qui veulent se rendre indispensables à votre vie. Fuyez ceux qui étouffent la voix de Jésus pour faire entendre la leur, en particulier dans leur prédication. Fuyez ceux qui vous détournent de l'Évangile et qui ne mettent pas Jésus au centre, qui ne mettent pas son œuvre au centre, qui ne mettent pas la croix au centre de leur message. Fuyez. Ce ne sont pas les vrais bergers. Fuyez ceux qui vous promettent la vie, le salut, en dehors de Jésus. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Par contraste, écoutez ce que Jésus revendique dans ce même verset. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » L'intention de Jésus est que celles et ceux qui croient en lui obtiennent la vie. C'est le but de sa venue sur terre. La vie que Jésus promet est une vie en abondance, pleine et entière. Et quand Jean parle de la vie dans son évangile, il parle de la vie éternelle. Carson souligne la qualité de cette vie en disant « Cette vie abondante, c'est la vie la plus belle que l'on puisse imaginer. » Et si dès aujourd'hui, alors que nous étions condamnés à mort à cause de nos péchés, nous avons obtenu la vie en croyant en Jésus, nous n'avons encore rien vu de ce à quoi ressemble cette vie en abondance. Nous n'avons rien vu de cette vie où les brebis auront constamment de quoi se nourrir et vivront sans être inquiétés par quoi que ce soit. Cette vie où le péché et ses conséquences ne seront plus. Nous n'avons encore rien vu de cela. Jésus promet aux brebis qui sont à lui une qualité de vie exceptionnelle. Mais pas comme le prêchent les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, qui promettent votre meilleure vie dès maintenant. Méfions-nous. Méfions-nous de celles et ceux qui mettent tellement l'emphase sur la prospérité matérielle, sur une santé à l'abri de toute maladie, soi-disant au nom de Jésus, comme si ça devait être le lot de tous les croyants. Ils tordent cette parole de Jésus pour nous laisser croire que cette vie en abondance, nous pouvons déjà l'avoir ici-bas. Oui, Dieu peut et veut nous bénir, mais il n'a jamais promis que nous aurions tout dans cette vie. Si nous ne sommes pas matériellement prospères, ce n'est pas parce que nous manquons de foi. Mais ce n'est tout simplement pas ce que Jésus a promis. Non, la vie en abondance est encore à venir. Et comment pourrait-il en être autrement une fois dans son royaume? C'est là qu'il y aura la vie dans sa plénitude. Comment pourrait-il en être autrement lorsque nous serons en présence de l'auteur de notre salut? Et aucune autre porte ne conduit à cette vie-ci. Seul celui qui dit « Je suis la porte des brebis ». Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il n'est pas seulement le berger qui appelle ses propres brebis. Il n'est pas seulement la porte. Jésus va ajouter qu'il est le bon berger. Suffit-il, je vous pose la question, suffit-il de suivre Jésus, de lui faire confiance pour avoir la vie? Pas de réponse? Suffit-il juste de suivre Jésus, de lui faire confiance pour avoir la vie? Oui, bien sûr, cela suffit. Pourquoi cela suffit? Parce que Jésus a accompli ce que Dieu avait prévu pour le salut. Jésus a rempli toutes les conditions pour que nous passions de la mort à la vie. Et ça y est, Jésus le dit enfin au verset 11, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce qui définit le bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour les autres. Par opposition, le salarié que l'on embauche pour garder les brebis n'a pas vraiment le souci des brebis. Il le fait pour de l'argent, il déguerpit à la première occasion quand le danger se présente. Le bon berger, lui, ne se comporte pas de cette manière. Jésus ne se comporte pas de cette manière. Jésus ne laissera jamais tomber ses brebis. Au contraire, quand ses brebis étaient en danger de mort, condamnés à cause de leur péché, Jésus a fait face à cette condamnation. Jésus a fait face à ce danger. Et il n'a pas refusé de donner sa vie pour sauver celle de ses brebis. Alors oui, il le dit, « Moi, je suis le bon berger. » Il le répète une deuxième fois. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus le répète, il est le bon berger, au cas où on ne l'aurait peut-être pas compris. Il est le bon et le seul berger à suivre. Et c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Il est prêt à tout, ce berger, pour les sauver, pour les arracher de la mort. Il est prêt à tout jusqu'à donner sa propre vie. Et ce n'est pas simplement un geste héroïque de sa part, c'est un acte concret d'amour. Et nous avons ici, dans ces versets, ces deux affirmations. « Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. » Et entre les deux, nous voyons Jésus évoquer la relation qu'il a avec ses brebis. Cette relation suggérée par un verbe, le verbe « connaître ». Dans le langage biblique, connaître quelqu'un ne se limite pas à l'acquisition d'informations à son sujet. Voilà, je sais des choses sur quelqu'un, donc je prétends que je le connais. Non, dans le langage biblique, connaître quelqu'un a un aspect relationnel. Nous ne pouvons affirmer connaître le Seigneur si nous ne sommes pas en relation avec lui. Et cela est confirmé par le parallèle que ici Jésus fait au verset 15, au sujet de sa relation avec le Père. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Évidemment, aucune relation n'est aussi étroite, aussi harmonieuse, aussi forte que celle qui existe depuis toujours entre le Père et le Fils. Et c'est une relation au sein de la Trinité qui demeure un mystère pour nous. Mais si Jésus ici évoque ce parallèle, c'est au moins pour indiquer la proximité que le berger a avec ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Bien entendu, Jésus nous connaît mieux que nous ne le connaissons. Il nous connaît individuellement. Il connaît chacune de ses brebis. Il se soucie vraiment de nous. Personnellement, individuellement. Il s'est tellement soucié de nous qu'il a donné sa vie pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pour nous les brebis qui ne font pas partie de cet enclos, qui ne font pas partie des Israélites. C'est ce qu'il dit au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. C'est chose faite, nous sommes là. Il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. La mission de Jésus, qui est de donner sa vie pour ses brebis, a une portée qui atteint toutes les nations. Le Seigneur n'a jamais eu l'intention de former deux groupes distincts. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, comme il n'y a qu'un seul berger, il y a un seul troupeau. Et pour terminer, les versets 17 et 18, le Père même, remarquez bien la formulation, le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces derniers versets soulignent que le sacrifice de Jésus est bien un acte volontaire de sa part, et non pas simplement subi, comme s'il n'avait pas le choix. C'est un acte volontaire de sa part, en accord, bien sûr, avec la volonté du Père. Et depuis le verset 15, Jésus le dit expressément, « Je donne ma vie, et je la donne de moi-même. » Et puisqu'il s'agit d'un don volontaire, Jésus a aussi le pouvoir de reprendre sa vie, c'est-à-dire de revenir à la vie après sa mort. Dieu, le Père, aime son Fils qui est prêt à mourir pour sauver ses brebis. L'amour du Père pour le Fils qui est prêt à se sacrifier pour des brebis. Nous entrons là dans l'intimité de la Trinité. Le Père qui aime le Fils, qui a accepté de donner sa vie pour ses brebis. Et au chapitre 15, alors que la croix est toute proche, Jésus déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et nul n'est semblable à Jésus en ce sens, parce que personne d'autre n'a eu pour nous le plus grand amour. Seul Jésus, conscient que c'était pour accomplir la volonté de son Père, dans le but que nous ayons la vie, est allé jusqu'au bout du sacrifice. Est-ce que ça, ce n'est pas une raison supplémentaire pour le suivre? Un peu plus loin dans notre texte, Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. La confiance, et si ce matin nous avons cette confiance, la confiance que nous accordons à Jésus ne sera jamais déçue. Ces seules paroles que je viens de lire nous donnent une véritable sécurité. Si nous sommes à lui, nous sommes définitivement à lui. Tout comme personne ne peut nous séparer de son amour, personne ne peut nous arracher à sa main. C'est ce qu'il dit ici. Nous pouvons être tranquilles, sûrs d'être gardés par sa puissance. Notre berger est le bon berger. Et c'est lui qui nous conduira jusqu'à ce que nous soyons face à face devant lui. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Jésus, en te présentant comme le bon berger, tu te présentes aussi comme étant celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Oui, tu as eu ce souci de nous, là où personne d'autre ne s'est soucié de nous. Tu t'es soucié de notre sort, et plus particulièrement de notre sort éternel, là où personne d'autre n'a vraiment le souci à ce sujet. Oui, merci parce que Tu es le berger que nous avons envie de suivre. Tu es ce berger unique en son genre. Unique parce que tu es ce berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et tu l'as fait. La croix nous rappelle que c'est ce que tu as fait pour nous. Et c'est de cette manière-là que tu as racheté un grand nombre d'entre nous. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Parce que tu nous conduis ainsi dans cette vie que tu nous offres. Une vie éternelle. Une vie en abondance. Effectivement, nous voyons des bribes de cette vie, mais elle n'est pas encore totale. Et nous attendons encore, Seigneur, que tu nous montres cette vie dans toute sa plénitude lorsque nous serons présents avec toi. Merci, Seigneur, de continuer à nous conduire en tant que berger, à prendre soin de nous, à panser nos blessures. Et tu connais, Seigneur, nos blessures les plus profondes. Merci d'être ce berger qui se préoccupe réellement de là où nous sommes, qui va chercher celle qui s'est égarée pour former un seul troupeau. Nous voulons continuer de te faire confiance encore durant la semaine qui est devant nous. Continuer à nous attacher à toi. Et le plus extraordinaire dans toutes les images qui sont employées à ton sujet, c'est que non seulement tu es le bon berger, mais tu es en même temps l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un berger agneau. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur, pour le grand salut que tu nous as acquis. Amen.